Camille Besse.
Au Liban, un immeuble abritant les ambassades de Norvège et d'Azerbaïdjan ainsi que la chaîne Al Jazeera évacuée. Les autorités libanaises ont reçu plusieurs menaces et appels à l'évacuation sans toutefois pouvoir pour leur confirmer l'origine de ces appels. Une frappe israélienne sur une école fait au moins 14 morts dans le nord de la bande de Gaza, selon deux hôpitaux du secteur qui annoncent manquer de matériel et de spécialistes pour s'occuper des blessés graves. L'armée israélienne affirme de son côté avoir pris pour cible des combattants palestiniens et mené une frappe de précision sur un point de rassemblement opérationnel. La Suisse livrera trois nouvelles machines de déminage à l'Ukraine. La présidente de la Confédération l'a annoncé aujourd'hui à Lausanne en marge d'un rassemblement international pour faire face aux défis massifs du déminage dans les pays en guerre. Les systèmes produits par une entreprise suisse seront acheminés cette année. La Suisse s'est aussi engagée à verser 4 600 000 francs à l'aide ukrainienne en cas de catastrophe afin de financer l'encadrement des acteurs ukrainiens. Au total, la Suisse a prévu de consacrer 100 millions de francs jusqu'en 2027 pour le déminage en Ukraine. La RTS annonce 19 licenciements l'an prochain et la suppression de plusieurs émissions. Avec la suppression de postes liés à des départs à la retraite et des postes vacants non repourvus, au total, c'est 46 équivalents plein temps qui seront supprimés en 2025. Le plan d'économie prévoit aussi la fin de plusieurs émissions comme Sport Dernière côté télévision et le journal radio de 22h30. Des mesures dues à la hausse des prix et à la baisse continue des recettes publicitaires. La RTS avait indiqué mi-septembre devoir économiser 10 millions de francs pour elle toucher à l'emploi était inévitable. Répondant à l'appel du syndicat des médias, une centaine de collaborateurs ont exprimé leur mécontentement cet après-midi au pied de la tour à Genève. Le syndicat déplore que les coupes se fassent sur le dos des collaborateurs sans que les cadres ne soient touchés. Les familles sans enfants n'ont pas la cote en Russie. Une législation adoptée aujourd'hui interdit la promotion d'un mode de vie sans enfants. Les députés l'ont voté en première lecture à l'unanimité. La Russie traverse une crise démographique amplifiée par le conflit en Ukraine. Il sera bientôt plus facile de circuler en bus entre l'Italie et la Suisse. Les deux pays ont simplifié leurs accords pour les passagers des lignes des bus régionales publiques. Désormais, les passagers des deux côtés de la frontière pourront monter et descendre à tous les arrêts. Actuellement, un bus reliant Martigny à Aos ne pouvait pas prendre de passagers en Suisse et les laisser sortir du même côté de la frontière. Selon le département fédéral des transports, avec cet accord bilatéral, les offres seront plus attractives et plus simples. Kylian Mbappé ne s'expliquera pas devant les médias. Selon son avocate, le joueur garde ses explications pour la justice suédoise si elle le sollicite. Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage à Stockholm. Pour plusieurs médias suédois, la star est directement visée. Le chanteur Liam Payne, ancien membre du groupe britannique One Direction, est décédé hier. Le musicien de 31 ans a chuté du troisième étage d'un hôtel de Buenos Aires en Argentine. Il est mort des suites de ses blessures. Météo, le ciel restera couvert ce soir avec quelques précipitations plus abondantes sur la région du Simplon. Demain, le temps sera similaire, quelques éclaircies attendues l'après-midi sur le plateau. Température jusqu'à 16 degrés et 19 en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, cultivons le lien qui nous rassemble. Vous souhaitez nous aider à réaliser les émissions du service public de demain ? Devenez membre du panel RTS pour partager vos points de vue et échanger autour des défis qui nous animent. Votre avis a de la valeur, alors rejoignez-nous sur rts.ch/panel.
Drôle d'époque. Francesco Biamonte, Mélanie Croubaglio.
Et pas seulement, il y a aussi Cécile Claire, Stéphanie Gauthier, nos assistantes de production que je salue. Il y a Stéphanie Jovanovic. Mais c'est vrai, elles font un travail magnifique. Stéphanie Jovanovic qui fait la programmation musicale de cette émission. Et bien sûr, l'excellent Bastien Meucli de l'autre côté de la glace en régie. Notre invitée est Sylvia Djane, enseignante, écrivaine. Vous nous avez raconté pas mal, Sylvia Djane, votre livre Les Affamés, qui est la raison qui m'a donné en fait envie de vous inviter. Le personnage prend du poids dans le livre à partir du moment où elle a migré. La migration, c'est quelque chose de crucial pour vous. C'était quoi cette idée de la prise de poids après la migration ?
En fait, la migration est toujours une profonde blessure.
toujours, même dans les cas de migration heureuse, hein, comme c'est mon cas par exemple. Mais il y a toujours une fracture, un avant et un après la migration. Mon père disait toujours des gens, il distinguait deux catégories de personnes. Les personnes qui avaient un compagnon, un mari, une femme, une personne à côté, et les personnes qui étaient single, comme on disait. Comme si c'était ça, en quelque sorte, l'élément qui distinguait l'humanité et séparait deux mondes. Et pour moi, ça, c'est en quelque sorte la migration, l'expérience de la migration. Et donc, on change... complètement, on change tout dans la migration. On change bien sûr nous-mêmes. On change l'identité, la langue, les passeports, l'identité professionnelle, les relations, les contacts, la manière de manger, la manière de bouffer.
La confession.
La confession aussi.
Ça, c'est
dans mon
truc...
cas, oui.
Eh ben oui, c'est un truc très particulier dans votre biographie, parce que on vous sent quand même, disons, d'un monde intellectuel plutôt orienté à gauche, on n'est pas très intéressé par les choses religieuses et ecclésiastiques. mais en arrivant en Suisse, vous avez choisi de vous convertir au protestantisme.
Oui, mais ça, c'est mon côté vraiment un peu anarché en Italie. Il y avait les Sex Pistols qui chantaient anarché in the UK. Et nous, on fait anarché in Italie. Et parce que, en fait, mon but, c'est un peu de d'amener l'hédonisme dans le protestantisme. En plus, il y a la rime. J'en profiterai.
C'est une mission, plus c'est qu'un but. Hein.
Voilà, c'est mon but.
C'est une mission dans l'émission, je dirais
oui,
même.
Absolument.
C'est une émission. Waouh, les jeux de mots.
Il est fort.
Bravo, bien.
Alors, je ne fais que rebondir sur votre virtuosité, mesdames. Mais poursuivez cette conversion protestantiste. Donc, mais incroyable. Amener l'hédonisme dans l'église réformée protestante vaudoise.
Et vous en êtes où alors dans cette mission? Ça fonctionne ou pas?
Alors, c'est pas mal déjà parce que, alors j'aime beaucoup, je dois dire que des raisons très pratiques, très concrètes et très un peu de base, un peu liées à la chair, c'est aussi le fait que quand on entre dans les temples, on peut boire. Alors que dans l'église catholique, on boit jamais. Soit on amène vraiment du pinard depuis chez nous, hein, c'est-à-dire, soit on embarque une bouteille dans son sac et on boit en même temps que les prêtres. Mais c'est rare de voir des gens faire ça.
C'est seulement le prêtre qui boit dans l'église catholique.
Et donc, il parle tout seul, habillé de manière discutable, et nous, on boit rien. Et alors que, une chose que j'adore du protestantisme, qu'il y a vraiment ces éléments de communauté, mais qui est aussi communauté dans les plaisirs, je suis désolée s'il y a de pasteurs à l'écoute, mais c'est ça, il y a quand même un élément de partage qui est lié aussi à la nourriture. Et parce que là, on mange déjà. J'ai remarqué que les portions de pain sont plus généreuses. C'est prometteur. Moi, j'ai dit qu'il y a une marge de progression. Il y a du travail. Il y a du travail, mais il y a une marge de progression. Mais c'est vrai que quand je vais au temple, donc ça m'arrive aussi de lire et de participer donc de manière un peu plus active à la vie de l'église protestante du canton de Vaud, chez moi, c'est-à-dire. Mais c'est vrai que j'amène quelque chose qui permet vraiment de relever de ça. Parce que c'est un élément oublié, mais qui fait partie de l'histoire du protestantisme. La communauté, l'effet de partager, l'effet de casser le côté hiérarchique, les femmes au pouvoir.
Il y a un fruit du protestantisme vaudois que vous aimez particulièrement, c'est votre mari?
Exactement. Alors, mon mari, on va dire, c'est un fruit du protestantisme malgré lui, parce qu'il est fils et petit-fils de pasteur. Donc, on va dire que la vraie religieuse, c'est, malgré les apparences, c'est moi à la maison. C'est-à-dire que lui, il est un peu un boulimie de protestantisme. C'est-à-dire qu'il a, il est plus affamé du protestantisme. Il a eu vraiment sa claque. Je pense qu'il a témoigné.
Il est gavé.
Bravo, exactement. Merci, Mélanie, j'ai cherché ça. Il est gavé de protestantisme quand il entend parler des dieux. Je pense qu'il est passionné, mais c'est plutôt toujours la même histoire. Ça fait un moment qu'il entend la même histoire.
Ça le saoule.
Si on résume, avec du bon français, vraiment approuvé par l'Académie française, oui. Oui, ça le saoule.
On reste dans le domaine de la boisson, etc. Et pourtant, il me semble que dans l'Église catholique aussi, il y a ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire c'est un partage, ouais, où on partage le pain, en principe, qui en général, c'est vrai, une hostie assez fine et assez petite. Ça, si on a faim, ça sert à rien.
Non, ça rassasie
pas. Mais elle peut être tremper dans du vin aussi, hein, parfois.
Oui, par les prêtres.
Oui.
C'est que les prêtres, qui est un mec en plus, il n'y a pas de femme, hein, à sa place.
On a un petit goût de vin quand même. Des
fois. Non, il n'y a pas le goût de vin. Je sais, hein, j'ai goûté quand même quelques fois, on va dire, les hosties, on dit en italien. Mais non, c'est pas très appétissant, c'est pas très gourmand. Par contre, je me rappelle d'un souvenir, j'ai très peu fréquenté l'église catholique parce que moi aussi ça m'a gavé très vite, hein. Mais je me rappelle une fois que j'ai pris avec ma cousine, c'est-à-dire la fille à offrir
à la cousine.
La cousine.
C'est joli, la cuisine, comme la cuisine.
Oui, une fois, j'étais justement à une conférence où j'ai dit, j'ai inversé les trucs, donc c'était assez drôle, tout le monde rigolait sauf moi, voilà, mais c'est toujours là. Ça, c'est l'immigré italienne qui n'arrive pas encore à franchir les pas. Mais voilà. Mais on avait volé des hosties avant la consécration. Mmh. Et ça, c'est un truc,
sacrilège.
C'est un sacrilège. Je pense que Serge Gainsbourg aurait aimé, par exemple. Et l'effet qu'il me, sa bénédiction dans un ondela de Serge Gainsbourg, mais permet d'avoir un souvenir, en réalité, c'est très agréable de ce moment.
De ce vol de style. Très sérieusement, qu'est-ce que vous attendez de Dieu dans cette drôle d'époque?
Ah, c'est bien. Moi, je m'attends... Ah, c'est bien ça, c'est complexe. Je m'attends qu'il m'accompagne à sa recherche.
C'est une belle réponse. Hein.
Merci.
Sylvia Djane, vous m'avez dit un peu avant l'émission... On s'est passé un coup de fil ce matin, vous m'avez dit, toute petite, mais vraiment toute petite, je voulais déjà émigrer.
Oui, quand j'avais 4 ans, je disais à ma mère, mais en tout cas, je ne vais pas rester ici, je vais aller ailleurs.
Mais ça venait de quoi ? Il y avait dans ce milieu ouvrier, prolétaire, oui. Vous avez parlé italien, il y avait les gens qui partaient et ça vous attirait ?
Mes parents sont migrants. Mon père était vénitien, hein, et donc les deux, et ma mère est sarde, et les deux se sont rencontrés à Turin. C'était novembre 1979.
Pour vous, un Vénitien à Turin, c'est un immigrant.
Ah ouais, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, si je dois choisir où passer ma retraite, j'ai pas de doute. Je vais à Venise, je vais pas à Turin. Ah non, j'ai déjà donné 33 ans à Turin. C'est une ville pleine de culture et de beauté, mais j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, en quelque sorte. Mais les livres turinois, il est déjà sorti et c'est bon.
Mais vous, donc, passer du Grand Saint-Bernard, de Martigny à Meulis-Margaux, c'était aussi être une migrante ?
Ah oui, c'est quand même c'est vertigineux.
Enfin, Turin, Martigny et puis Meulis-Margaux.
Ah, Meulis-Margaux, surtout les décalages entre Turin et Meulis-Margaux. Si vous voulez, après j'ai des photos, hein. Je prends en photo des habitants de la région. On a des renards, on a des fuines dernièrement. À mon avis, on a aussi des loups, mais mon mari n'est pas d'accord. Moi, je pense avoir entendu la nuit, je ne sais pas si c'est dans mes rêves ou dans la vraie vie, mais en tout cas, je soupçonne un groupe, un troupeau, comment on dit ?
Une meute
de loups.
Bon, j'ai envie de vous demander si vous êtes une femme qui court avec les loups, mais je ne le ferai pas, j'exagère.
Transition avec le sujet du féminisme.
C'est vrai, mais non, mais je ne vais pas encore amener la transition, justement. Non, j'ai encore envie de rester un
petit
peu avec votre...
Un très joli livre, en plus. Hein,
vous l'avez aimé ?
Oui.
Femme qui court avec les loups, Clarissa Pinkola Estes.
Exactement, c'était surtout un livre qui m'a accompagnée à l'adolescence. Donc, bien sûr que je n'aurais pas envie de le lire maintenant. Pour moi, on y retrouve des éléments symboliques dont je me suis désormais approprié, mais quand j'avais 20 ans, c'était quand même une découverte. On n'était pas à la même époque, à la même drôle d'époque du féminisme.
Quel rapport avait votre famille à la culture, cette famille prolétaire ? Est-ce que, parce que dans ces années, à gauche, il y avait, dans la gauche radicale, il y avait cet idéal d'amener la culture au prolétariat, qui était peut-être aussi un idéal un peu paternaliste et surplombant, parce que finalement, il s'agissait d'amener la culture bourgeoise au prolétaire, d'une certaine manière.
Ça ne marchait pas, alors, spoiler, ça n'a pas marché. Mais oui, ça n'a pas marché. Déjà, comme vous le dites très clairement, c'est du paternalisme. En fait, parce qu'il n'y a pas, il n'y a aucun héritage sans appropriation, sans un processus d'appropriation. Il n'y a pas d'héritage sans appropriation. On ne peut pas, nous, décider de donner à quelqu'un quelque chose qui n'est pas prêt à accueillir. Et donc, c'était exactement ça. Donc, c'était essayer de rendre plus démocratique quelque chose qui n'était pas dans les faits et pour lesquels il n'y avait pas les bases ni individuelles, ni collectives, ni politiques, ni de société, d'économie. Déjà, il fallait avoir d'autres situations. La sécurité au travail, la parité salariale. Encore en Italie, il y a je ne sais pas combien de morts dans les contextes du travail, donc dont les braccianti, c'est-à-dire les migrants qui sont traités pire que des objets. Donc, j'ai plutôt que faire du paternalisme sous ce que le prolétariat devrait et censé apprendre de la bourgeoisie, peut-être c'est le cas de s'interroger sur comment la bourgeoisie est devenue bourgeoisie.
Et vous, Sylvia Djane, comment est-ce que vous êtes arrivée à la littérature, au théâtre, à ces activités qui ont marqué votre destin personnel et professionnel?
Alors, pour moi, c'était vraiment une fin, en quelque sorte. J'avais besoin de ça. Moi, je sais pas comment j'aurais fait dans cette rôle d'époque, sans littérature, sans l'art, sans la beauté, sans l'inutilité de la beauté. Je sais pas.
Mais qui vous a donné accès à tout ça?
Alors, en partie, c'est un héritage dont j'avais tellement faim, qui a pris une autre forme et qui est devenu mon bagage. Donc, mon père aimait infiniment la littérature et surtout la poésie. Il parlait un italien exceptionnel et il écrivait très bien. Et il n'a pas pu faire des études parce qu'il venait d'une famille vraiment pauvre et vraiment affamée. Et je pense qu'il a souffert toute sa vie de ça. Et je le comprends. Il avait raison. C'était une grave erreur, c'était une responsabilité historique qui a frustré des personnes comme mon père et des entières générations. Et je pense que j'ai vu cette frustration, je l'ai sentie, j'ai senti aussi cette faim, je l'ai prise, je l'ai souffert, ça m'a en quelque sorte un peu perturbé l'adolescence et une partie de l'enfance sans autre, mais après c'est exactement la chose qui m'a donné une niaque redoutable, un appétit sans fin.
Un appétit d'enseigner aussi?
D'enseigner, d'apprendre, de découvrir, de tracer des chemins.
Parce que vous avez choisi de devenir enseignante, oui. D'étudier la didactique.
Oui.
Bon, avec cette perspective que vous disiez avant, qu'il ne s'agissait pas de remplir les enfants de quelque chose,
oui.
Qu'il s'agissait plutôt de leur enlever ce qui était inutile pour qu'ils accèdent quoi, à quoi?
Bah, déjà à eux-mêmes,
voilà.
Et à leur parcours, et à leur liberté, et à ce qu'ils veulent devenir et être.
Alors dans ce cas-là, j'aimerais qu'on écoute maintenant un petit son que j'ai préparé, ça dure 15 secondes, vous allez reconnaître la voix de Maria Montessori.
Oui.
Il y a ce sujet de l'éducation qui est très important et qui est caractéristique de notre siècle. Parce que après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant.
Après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant.
Oui.
Comment vous réagissez à ces mots? Assez impressionnant quand même.
J'ai dit qu'elle était courageuse et malheureusement, elle était encore seule. Assez seule. Mais non.
Quelle année?
Je ne sais pas, j'ai pas l'année d'archive.
Ouais. Mais oui, je pense que il faut vraiment déjà se libérer de ces clichés de la femme maman, clichés de soi-même, clichés de l'éducation et voir la femme dans son pouvoir actionnel. Dans sa liberté et dans son autodétermination et donc voir les rôles de la femme dans l'éducation et l'enseignement. Parce qu'en tout cas, la majorité des enseignantes, c'est des femmes encore actuellement, notamment au degré primaire et secondaire. Au gymnase, c'est un peu différent. À l'université, c'est encore différent. Après, quand on parle de rôle de pouvoir, c'est encore une autre paire de manches.
Drôle d'époque. Sur la première.
Sylvia Djane, vous êtes venue avec une chanson, Siamo oui. Dei, nous sommes des dieux. Vous nous en dites deux mots?
Alors, c'est une chanson, en quelque sorte, qui est née en même temps que moi. de Lucio Dalla, qui a vraiment marqué le début des années 80, juste avant moi, mon arrivée. Et Lucio Dalla, un désobéissant, un original, un poète de la chanson italienne.
Une figure majeure.
Majeure, avec Fabrizio De André.
Interprète, voilà,
exactement.
De cette époque.
De cette époque, je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est en quelque sorte un j'accuse de Lucio Dalla, chanteur, mais d'un homme, qui accuse les dieux d'être snob face aux humains, alors que toutes et tous, on a notre dimension héroïque.
Qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, riesce a ballare per tre giorni e tre notti senza doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io, ogni estate do il mio voto, vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Ogni giorno che vola via scopri di avere una nuova malattia. Oh, 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 brutto uccello, ti ha mai detto nessuno che un Dio dovrebbe essere più bello? E poi non ho capito l'ultima riga, non sarà sempre nello spazio ha imparato a portar sfiga. Su quale giornale scrivi? Noi non siamo ancora morti, se possiamo guardarci in faccia vuole dire che siamo vivi. Noi siamo dei e la tua vita è un inferno o qualche cosa di più atroce. Potresti vivere anche tu in eterno se ti pentissi, se abbassassi un po' la voce.
Hall d'époque, sur la première. Les rencontres d'Émilie Gasque.
Bonjour Émilie, j'ai l'impression qu'il y a de l'ambiance là où vous vous trouvez.
Ah mais attendez, c'est la chantée de toute une école. Je sais pas, j'ai peut-être 300 enfants devant moi entre 4 ans et 10 ans qui chantent à tue-tête des tubes qui remontent au début des années 2000 jusqu'à
quelle
aujourd'hui.
Quelle chance.
Oui, bon. Mais moi je vous amène,
d'autre.
Chez Louise.
Oui. Qui est Louise?
Louise, elle a 24 ans et on la découvre.
J'ai grandi à Lausanne, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Du coup, mes deux parents, ils sont comédiens et metteurs en scène. J'ai toujours eu l'exemple de parents qui faisaient des choses artistiques et qui arrivaient à en vivre, du coup ça c'était super.
Il y avait vraiment de l'argent chez vous?
Bah, en tout cas, j'ai jamais remarqué quoi que ce soit quand j'étais petite. Et vu que mes parents travaillaient beaucoup et de leur passion, je crois pas que ça a été un problème.
Jamais d'insécurité ou de sentiment de pas être comme les autres?
Pas vraiment, parce que au final, j'avais pas mal de mes copains et copines dont les parents étaient aussi comédiens, parce que dans le quartier, il y avait pas mal de comédiens et d'artistes qui vivaient. Du coup, non, c'était plutôt quelque chose en plus, dans le sens où je pouvais dire mes parents, ils sont comédiens.
Et comment c'est au quotidien des parents comédiens? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de penser à ce qu'ils font, à ce qu'ils vont interpréter ou ce qu'ils vont écrire, puisqu'ils sont aussi metteurs en scène? Est-ce qu'ils sont très pris par cela ou est-ce qu'ils sont aussi disponibles?
Alors oui, moi je pense qu'on vraiment, avec j'ai une petite sœur, on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis j'ai un souvenir en tout cas des moments où on était en famille, où c'était vraiment la famille et le boulot c'était autre chose. Après j'entendais les conversations d'adultes avec les autres adultes qui parlaient de ça, mais je dirais qu'avec nous ils étaient vraiment dispo.
Et vous alliez les voir?
Oui, on allait à presque tous les spectacles. Et puis surtout, moi, ce que je préférais, c'était plutôt d'aller dans les coulisses, aller voir dans les loges ce qui se passait, aller piquer les bonbons et puis les chips des loges, quoi.
Oui, parce qu'ils disent ça, hein, dans les loges, et surtout lors des premières, il y a des cadeaux.
C'est ça. Il y a des cadeaux, puis même suivant les théâtres, un peu tous les jours, il y a toujours un petit panier avec deux, trois biscuits, deux, trois fruits, deux, trois trucs comme ça. Ça me fascine énormément.
Est-ce que vous avez trouvé un rythme et un cadre là-dedans, ou est-ce que c'était tumultueux, avec des moments d'accélération, des moments de grande présence?
Bah, en fait, j'ai quand même l'impression qu'ils ont essayé vraiment tous les deux d'instaurer quelque chose d'assez routinier pour nous, justement. Après, évidemment, il y avait des périodes où il y avait des babysitters presque tous les soirs, et d'autres où mes parents, ils étaient là vraiment tout le temps, quand il y avait moins de projets. Mais je crois que je l'ai vécu quand même de manière assez stable étant enfant, surtout parce que j'avais pas de point de comparaison, disons.
Et vous étiez comment, vous, alors, petite?
J'aimais beaucoup dessiner. J'aimais beaucoup, je chantais tout le temps. Et puis, j'aimais vraiment tout ce qui était créatif, disons. Il y a des choses que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout jouer au papa et à la maman, par exemple. Ça, c'est un truc, je me souviens, je détestais ça. Je préférais vraiment juste plutôt faire des bricolages, dessiner des choses. Et puis aussi, un truc que je détestais, c'était les jeux, disons plus, avec des règles conventionnelles, dans le sens, j'ai un souvenir traumatisant des chaises musicales où je comprenais pas pourquoi il fallait faire ça, alors qu'on pouvait genre juste simplement faire des bricolages et des choses plus personnelles. Pareil avec le coloriage, j'ai jamais compris l'intérêt de juste avoir à colorier alors qu'on pouvait faire le dessin en entier.
Une petite fille qui chante tout le temps, c'est pour moi une petite fille qui va bien.
Ouais, bah, on peut dire que j'ai une enfance très heureuse.
L'adolescence?
Étant ado, je me suis vraiment passionnée pour tout ce qui était plus de l'ordre des ordinateurs. J'avais appris à coder en C toute seule. Je craquais les iPods et les iPhones de mes copains.
Mais comment c'est venu?
Je sais pas, c'est un peu venu d'un coup, tout d'un coup. Mes passions, elles ont un peu changé. Et ouais, j'ai été passionnée par des choses plus liées au réseau, enfin à Internet, je dirais.
Bon, vous aviez le côté bricolage en vous déjà?
Oui, c'est ça. Puis en même temps, toujours avec une patte artistique, dans le sens, je me suis passionnée pour Photoshop. Du coup, je faisais des montages stupides d'animaux avec des têtes qui correspondaient pas aux autres, etc.
Mais ça devait être un peu impressionnant pour vos copains, la fille qui code, qui craque les iPods.
Bah oui, j'ai toujours été un peu première de la classe, disons. Mais j'essayais de cacher le plus habilement possible que j'étais forte, en fait.
Pourquoi ça?
Je pense que c'est des espèces de choses instinctives sociales en étant ado. On veut vraiment juste faire partie du groupe. Et puis, enfin, moi, c'était vraiment mon sentiment où j'avais pas du tout envie de passer pour l'intello puis d'être mise à part, en fait. Du coup, j'essayais d'être, enfin, ça m'empêche pas de faire des bonnes notes. Je me sabotais pas non plus. Mais j'essayais vraiment tout le temps d'être sympa et de pas du tout être dans le jugement des personnes qui avaient plus de peine à l'école, par exemple.
D'être la fille cool?
cool, mais juste normal, je crois.
Mais c'est quand même une pression, c'est-à-dire qu'on se retrouve coincé en ayant des bonnes notes.
Oui, enfin, j'avais à moitié conscience de ça, dans le sens où je savais que c'était pas forcément normal. Après, j'avais pas l'analyse que j'en ai maintenant aujourd'hui avec le recul, etc. Mais je crois que sur le moment, j'avais juste envie d'être comme tout le monde, de m'amuser avec mes copains et copines, et puis pas d'être vraiment soit mise à l'écart, soit mise sur un piédestal ou par rapport au fait que j'avais de la facilité partout, quoi.
Et vous êtes une jeune fille. Comment vous construisez en adolescente ?
Beaucoup sur l'imitation des autres, dans le sens avec un sentiment profond que moi je sais plein de choses, je comprends facilement les choses, j'ai plein de passions, mais je sens que c'est pas forcément celle de tout le monde, dans le sens où j'écoute des groupes que personne n'écoute. Ouais.
C'était quel groupe ?
Alors il y avait toute une partie funk et une partie grunge, Sonic Youth, Nirvana, des choses comme ça, et puis aussi plus en mode funk, psychédélique, Bootsy Collins, Parliament, etc.
Adolescente, et pas du tout les hits du moment, ni les vagues du moment, je pense à Stromae, etc., puisque vous étiez dans cette génération.
Bah ouais, alors justement, je faisais vraiment l'effort d'essayer à peu près de capter ce qui se passait maintenant, est-ce que mes camarades et les gens autour de moi écoutaient, pour pas être larguée quand il y avait ce genre de conversation, mais au final ça m'intéressait assez peu.
Mais donc toujours dans l'idée de faire partie, ouais. Mais en gardant ce que vous aimiez pour vous.
Exactement. J'ai mon petit jardin secret dans mon coin, avec deux, trois, évidemment, complices, deux, trois copines avec qui je pouvais partager ça, mais j'essayais un peu d'écouter les trucs à la mode pour être sûre de ne pas me faire démasquer.
Comment vous en êtes venue à écouter d'autres musiques ? Qui vous a initié ? Qui vous a ouvert les portes ?
Une de mes meilleures amies, c'est elle qui m'a vraiment montré tout, plein de groupes. Elle, je crois que ça vient de sa famille, de ses parents qui écoutaient, eux, déjà cette musique-là. Qui, du coup, elle a eu cette culture-là par ses parents. Et puis, du coup, elle m'a montré plein de choses. Et puis après, de fil en aiguille, notamment grâce à YouTube, en fait, et avec tout ce truc de... En fait, on écoute un disque de ça, et puis en fait, on voit dans les suggestions qu'il y a... Ah, en fait, je peux aller écouter ça. Et je me suis fait ma culture musicale comme ça.
Mais c'est vrai, vous êtes une fille des années 2000. Hein.
Exactement.
Vous aviez Internet.
Oui, c'est ça. J'ai eu accès assez rapidement à de la musique comme je voulais, de manière illimitée et gratuite sur Internet.
Faut-il savoir chercher ?
Oui, il faut savoir être curieux surtout, parce que je suis quelqu'un des années 2000, mais du coup, il n'y avait pas forcément des playlists déjà. Enfin, moi, c'était plutôt... Après avoir regardé cette vidéo, il y avait une autre vidéo qui apparaissait, mais il fallait avoir l'ouverture de l'esprit de se dire « Ok, bah, je vais aller écouter ça », ou alors « Ah non, en fait, ça, j'ai déjà écouté, je vais aller écouter autre chose ». Tout d'un coup, j'étais un peu heureuse qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse et qui me résiste un peu, entre guillemets, dans le sens où, vu qu'à l'école, je faisais aucun effort, je m'ennuyais terriblement. Et du coup, avec la musique, bah, c'est tellement immense, il y a tellement de choses à faire. Et pareil, avec les arts visuels, il y a tellement de choses qui ont été faites que du coup, c'était quelque chose de plus grand que moi qui m'a du coup fait beaucoup de bien.
Avec les autres, avec le fait d'être une fille, comment ça allait ?
Je pense que je suis juste pré-MeToo dans mon adolescence. Du coup, c'est pas vraiment des questions que je m'étais posées. Sans être anti-féministe non plus, c'était vraiment... j'existais simplement. Et toutes les questions de genre, c'est vraiment des questions que je me suis posées beaucoup plus tard. Mais je dirais que dans toute mon enfance, mon adolescence, même jusqu'à assez tard dans mon adolescence, j'étais juste un peu quelqu'un qui aimait des trucs et qui aimait pas des trucs, mais je m'étais pas du tout rendu compte du fait que j'étais une fille.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps et en même temps, il peut y avoir juste aussi des chocs de se dire « Ah, mais en fait, là, j'ai vécu un truc bizarre. Ah, tiens, c'est du sexisme, en fait. Ah, d'accord. » Et puis ensuite, on va se renseigner.
Ouais, c'est ça. Quand ça prend du temps, ça peut aussi vouloir dire que vous avez été épargnée.
Oui, et je pense que j'ai eu énormément de chance. J'ai été épargnée par un cercle social, je dirais quand même assez bienveillant, par une éducation aussi où, vu que mes parents, ils faisaient le même métier, j'avais aucune notion que des métiers pouvaient être genrés. Par exemple, et j'ai toujours été traitée à part égale avec ma petite sœur, au sein de ma famille, etc. Et puis même au sein de l'école, etc. C'est des choses que j'ai pas vécues parce que je pense que, évidemment, j'ai dû vivre des injonctions sexistes, mais je pense que c'était tellement ancré dans la culture de l'époque, entre guillemets, que je l'ai même pas remarqué, quoi.
Et vous vous sentez bien dans votre peau quand vous grandissez ?
Une fois que j'ai fini de grandir, oui. Dans le sens, évidemment, quand on est ado, on se cherche, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai pris du temps à prendre confiance en moi, de me dire, en fait, j'ai le droit d'aimer des choses, j'ai le droit de détester des choses, et puis de le dire à haute voix pour pas froisser les gens. Et puis, je dirais que maintenant, dans ma vie d'adulte, je suis hyper contente d'être là où j'en suis.
Les relations amoureuses, les relations affectives, c'est là aussi que ça bouillonne dans l'adolescence.
Bah, en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait assez peu, dans le sens où j'étais vraiment tellement dans mes passions de programmation, de Photoshop, d'informatique, de musique. J'avais commencé à jouer un peu de guitare aussi. Et je me suis pas rendu compte que c'était en train de devenir un peu le truc.
Le sujet de tout le monde.
C'est ça, c'est ça. Et puis tout d'un coup, j'ai compris que mes copines, avant, avec qui on parlait de tout et n'importe quoi, on parlait de trucs intéressants, tout d'un coup, elles ont commencé à dire « Ah, moi, je suis amoureuse de lui, machin. » Puis du coup, j'étais là « Ah bon ? Ah, d'accord. Ah, ben, ça a changé, ça. » Et puis du coup, j'ai fait un peu le caméléon aussi. J'ai dit « Oui, moi aussi, je suis très amoureuse de lui, alors que c'était pas vrai du tout. » Mais je dirais que la première fois où je suis vraiment tombée amoureuse, c'était plus tard. Dans le sens, en étant ado, j'ai un peu copié tout le monde. Et puis après, j'ai vraiment rencontré une personne avec qui je me suis dit « Ah, en fait, c'est ça le vrai truc !» Où tout d'un coup, il y avait des intérêts communs, on a pu discuter de trucs intéressants, quoi.
Votre invité, votre rencontre, c'était Louise.
Oui, un phénomène. Louise, qu'on peut voir en photo avec plein de couleurs et un poster de jazz derrière elle, c'est sur les rencontres d'Émilie Gasque sur Instagram.
Drôle d'époque. De 15h à 17h.
On entend à votre voix, vous êtes au téléphone, vous n'êtes pas au studio, mais vous avez quand même écouté notre invitée Sylvia Jahn pendant l'heure qui vient de s'écouler.
Mais oui, c'est l'avantage de la route. Moi, je suis une grande adepte de la radio en voiture. J'ai pu vous écouter sur la route, Sylvia. Et je me demandais, après toutes ces discussions sur les femmes, quel était le rapport entre les femmes et leurs mères, les filles et leurs mères, et si vous aviez vous-même une fille, des enfants, et où, alors, quel est votre rapport à vous et à votre mère ?
Merci, Émilie. Je vous suis passionnément. Donc, merci. Ça me fait plaisir de vous rencontrer à travers nos voix, en plus. Je trouve très charmant, ça. Non? C'est l'identité par les sons qu'est l'expérience.
La voix est un visage.
La voix est un visage plus puissant qu'un visage.
Surtout à la radio.
Ah oui, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on kiffe, la radio. Voilà. Mais, alors, pour répondre, vaste sujet, je pense que, on a beaucoup plus d'outils pour être consciente de notre situation en tant que fille, que femme, fille, mère ou pas mère. Et moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fille. Bon, j'ai une fille féline, Mandor la Mélisande, que j'espère qu'elle sera en train de m'écouter à la radio.
Mais c'est votre chat.
C'est mon chat, une de mes quatre, Mandor la Mélisande.
C'est... Ah, vous en avez quatre.
C'est ça.
Quatre chats.
Dont une chatte, oui, oui. Et, mais j'ai pas, on va dire, des enfants humains. Et j'ai une relation très forte avec ma maman. Très fort, très belle, en plus en vieillissant, et sa fragilité m'a demandé de devenir en quelque sorte fille d'une autre façon, encore une autre fois. Et c'est très touchant, parce que je pense que cette forme de tendresse, d'accudimento, je dirais en italien, mais je trouve pas le...
De prendre soin. De...
Exactement, mais accudimento, c'est puissant. En italien, c'est en quelque sorte un étrange cadeau, un difficile cadeau, un cadeau cruel, mais béni, de la vieillesse des parents.
Donc j'ai pas
vu.
Oui, j'ai pas vu. Il y a une grande nudité dans ce lien, hein, dans ce lien-là. On est vraiment presque en peau à peau avec les gens qui vieillissent et qui se livrent à nous.
Oui, exactement. Et cette fragilité, parfois, justement, je lui caresse les mains et la peau de main est subtile, comme si c'était une autre peau, une nouvelle peau, sa peau de femme âgée, de femme vieille. Et je trouve tellement de chance de pouvoir voir cette peau qui a pu changer, qui a pu se laisser toucher par l'existence. C'est très fort. Ouais.
Ouais, c'est beau d'aimer longtemps. Mais cette réalité qui est la vôtre d'être une femme qui n'a pas eu d'enfant,
oui.
est-ce que c'est un choix que vous avez mûri ou est-ce que c'est dans le parcours de la vie que ça s'est imposé à vous ?
Alors, un peu, c'était dans les parcours de la vie, comme ça, les choses se sont faites comme ça, et c'est très bien. Et de plus en plus, en vieillissant, bon, maintenant j'ai 43 ans, donc je pense que les jeux sont faits. Ciao, ciao, j'attends avec impatience la ménopause. Mais c'est vrai que j'assume. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je me consacre avec beaucoup d'attention, de passion et d'élan. Et aux enfants des autres, et je suis bien comme ça. Donc c'est, et je trouve aussi très, en fait très négatif de dire ah oui mais après tu n'auras pas d'enfants quand tout sera vieille, etc. Cette vision en quelque sorte utilitariste, ouais, presque économique de la parentalité, je trouve. Je la trouve tellement pauvre.
Je peux lire un petit bout du livre qui va bien avec ce que vous dites là. Le titre du chapitre, c'est « Je ne suis pas enceinte ». Et ça dit « Quand on prend du poids, l'intérêt des gens pour notre vie sexuelle augmente de manière considérable. La vendeuse lui demande si elle est enceinte. Vous attendez un enfant ? Ce que j'attends en réalité, c'est une réduction de 30% sur cette robe. La meilleure est celle de la voisine qui lui demande si elle a accouché d'un garçon ou d'une fille. D'une énorme assiette de lasagne, chère madame. Finalement, elle décide de mentir, elle est enceinte, elle a pris beaucoup de poids pour cette raison. Visage contrit par devoir d'empathie. Il s'agit d'une grossesse difficile, ça dure depuis 2 ans. Finalement, grosse et belle n'existe qu'à condition de porter un autre être humain. Si on ne mange que pour soi, ça ne va pas. »
Exactement. Et en plus, c'est à nouveau un cliché, en quelque sorte, de la générosité. Bravo, hein. Mélanie, c'est vraiment waouh. J'adore. J'adore trop. Je peux pas revenir.
C'est vous qui avez écrit ça, pas moi.
Non, mais j'adore votre voix, votre manière de faire les liens. C'est pas que, je me kiffe de temps en temps, mais pas autant. Mais là, je kiffe vraiment votre capacité à tracer les liens. Parce qu'en plus, il y a là, un cliché de la générosité, en quelque sorte. Donc, le corps d'une femme peut devenir généreux qu'à condition qu'il y ait une autre personne dedans. Alors que c'est pas dit. À nouveau, libre de vivre la grossesse à sa façon. Et de changer à sa façon. Donc, il y a des femmes qui changent énormément. Il y a des femmes qui prennent moins. Il y a des femmes qui perdent leurs enfants. Il y a des femmes qui accouchent à 6 mois. Il y a des femmes qui accouchent après le délai, avant, dans des situations très différentes.
Il y en a qui adoptent des enfants.
Exactement, qui adoptent. Voilà, ça, c'est peut-être, pour moi, la maternité est liée par un fil rouge à l'adoption. J'ai rêvé plusieurs fois d'accoucher, donc je suis devenue mère plusieurs fois dans mes rêves.
Vous rêviez de l'accouchement?
Oui, j'ai rêvé, oui, de donner naissance, oui. Et d'ailleurs, la fille dont j'accouchais dans un rêve quand j'avais 24 ans, tellement je me rappelle bien, hein, il y a presque 20 ans, je l'appelais Mélanie.
Incroyable. Alors là,
c'est ça. Elle était noire. Et en fait, pour moi, en quelque sorte, la maternité, c'est une forme toujours d'adoption, plus ou moins formelle, mais c'est toujours l'adoption d'un être qui t'a choisi en quelque sorte, qui t'a choisi en quelque sorte, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, et qui va te faire changer et que tu vas découvrir, qui est quand même une autre personne par rapport à toi, qui va être une révolution par rapport à toi. Et toujours.
Et qui peut même entamer aussi un combat par rapport à, je pense à ce que vous êtes en train de raconter par rapport à la maternité, au corps des femmes, à ces injonctions faites aux femmes, au contrôle du corps des femmes. Les filles, avec leur mère, sont très contrôlantes. Elles sont très conservatrices. Elles n'aiment pas la liberté de leur mère. Elles n'aiment pas leur changement. Elles n'aiment pas leur transformation. Vous parlez de votre maman avec beaucoup d'affection.
Oui.
Est-ce que vous avez eu votre période très conservatrice et critique et farouchement opposée à ce que votre maman soit aussi une femme?
Ma maman, je pense que c'est une femme beaucoup plus... ma maman, c'est vraiment mon contraire, hein, yin et yang. Alors, ma maman, elle est discrète, elle parle très doucement, elle aime les roses, les blancs. Moi, j'adore les rouges, je parle fort, j'aime boire du rouge, j'aime faire la fête, elle aime pas être bruyante, etc. Donc, on est vraiment aux opposés. Honnêtement, je pense parfois la mettre en discussion et l'avoir mise surtout en discussion quand j'étais plus jeune. Et je pense que c'est bénéfique Je pense que c'est important, ces côtés révolution. S'il n'y a pas, en fait, parfois, il y a beaucoup de résistance au conflit, surtout inter-helvétique, il faut le dire. Hein. Là, la neutralité sacrée, hein. Comme c'est mal, les conflits, c'est mal. Bah, ça dépend. Le conflit est mal si on le transforme en guerre et on fait pas bon usage de ces conflits. Mais en réalité, les conflits, c'est la base de la transition. Sinon, on change pas. On est bien où on est. On s'en fiche de changer. Pourquoi changer? Donc, heureusement qu'il y a les ados. Donc, quand il y a des ados perturbateurs à l'école, moi, j'adore. Je kiffe. Je leur dis ouvertement. Je leur dis, ah, là, c'est de la provocation. J'adore. Vraiment, merci, hein. Continuez à provoquer. Je vous encourage.
Et du coup, ils deviennent sages par opposition.
Exact. Voilà.
Par transgression.
En quelque sorte, ça me permet de gérer avec beaucoup plus de coolness mes classes, peut-être. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est important. C'est leur rôle social. C'est leur chance. C'est pas vrai que cette génération est pire que la nôtre. Non, je pense qu'elle est meilleure que la mienne. Je le dis. Je m'engage. Elle est meilleure que la mienne. Elle a une sensibilité écologique qu'on n'avait pas. Elle a une conscience par rapport à l'environnemental, si on veut, qu'on n'avait pas. Elle a aussi une conscience féministe qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Donc, drôle d'époque, oui, mais quand même meilleure que la nôtre. Donc, allez-y, foncez, les enfants.
Et laissez vivre vos mères. Non, je rigole.
Et laissez vivre vos mères, voilà. Je dis, laissez vivre vos mères, voilà. Mais à un moment donné, c'est aussi aux mères de laisser vivre les filles. C'est aussi
aux
pères de devenir des pères désobéissants du patriarcat. Parce que ça, alors, un père qui a une fille, c'est un sacre de fille, hein.
Merci, merci beaucoup Sylvia Diane. On va écouter une chanson de Tigre d'eau douce, le groupe Tigre d'eau douce de Laurent Bardenne avec la voix de Bertrand Belin. Et puis on vous retrouve juste après.
Et moi je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde.
Au revoir Lily. Belle été. On se retrouve le 26 août.
Formidable.
Et je dois dire, je ne sais pas si vous aussi, Émilie, je dois dire que moi, j'aimerais bien être... je vais m'inscrire en auditeur libre au gymnase de Beaulieu. J'ai envie d'aller suivre ses cours.
Oh oui. J'ai très envie aussi.
On y va tous.
On y va tous.
Merci.
On organise ça pour la rentrée.
On fait une classe.
Vous êtes invitée. Je vais informer ma directrice que je salue cordialement. Qui sera ravie, je pense.
Une chanson, Sylvia Diane, que j'ai choisie vraiment pour vous, pour sa poésie, vous qui aimez la poésie. La voix de Bertrand Belin, vous la connaissez?
Oui, j'adore.
Le long des cours d'eau. j'étais un enjeu. Qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Quelle belle chanson, Sylvia Jahn.
C'est ça. C'est voir un volontaire, d'homme enfant.
Un enfant, vous dites.
Oui, d'homme enfant, libre, pur et d'autodérision et de poésie.
Vous aimez l'autodérision, c'est important pour vous.
Ah oui, oui, sans autodérision, on va où là? Non, c'est la base, vraiment. Je rigole beaucoup, beaucoup de moi.
Et
j'ai besoin de rire. J'ai vraiment une fin de dérision, ouais.
Et vous trouvez que c'est une qualité essentielle pour quiconque veut écrire?
Bah, je pense que c'est important dans cette drôle d'époque, notamment, pour écrire, oui. Pour faire de l'art, c'est pas mal.
Sylvia Jahn, quelle féministe êtes-vous?
Ah! Quelle chouette question. J'essaie d'être une féministe inclusive et intersectionnelle, pour utiliser un mot technique, mais ça veut dire...
On peut expliquer, ouais, peut-être.
Oui, donc une féministe qui s'engage dans d'autres revendications qui sont fondamentales. Donc la lutte contre le racisme, contre la discrimination, les revendications LGBT, queer+, qui sont vraiment fondamentales. Et même la réflexion écologique, je réfléchissais quand on parlait des oiseaux qu'on mangeait, et je les mangeais dans l'innocence de l'alimentation de l'enfance. Mais je pense que c'est vraiment important, cette conscience de ce qu'on mange et comment on mange et de cette transition vers le monde végétal.
Bertrand Belin qui disait qu'il n'est qu'un serpent, qu'il perpétue ses hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs des colombes. Dans la chanson qu'on écoutait, Oiseaux, Laurent Barden, Tigre d'eau et Bertrand Belin. À votre sens, où en est la cause féminine dans nos sociétés aujourd'hui?
Ah, c'est une question complexe. Je dirais qu'on a pas mal avancé, notamment dans la prise de conscience. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et il y a notamment les hommes qui sont appelés, à mon avis, à une... Je parlais avant de désobéissance à la société du patriarcat. Et donc maintenant, on vous attend. C'est-à-dire que il y a beaucoup qui étaient sémés et maintenant c'est le moment de recueillir et de s'approprier de cet héritage qui a un grand héritage important, mais c'est la seule manière pour devenir aussi des hommes libres.
Ils peuvent faire comment pour désobéir au patriarcat?
Je dirais déjà être conscient, prendre conscience de certaines choses, de la charge que leurs femmes au pluriel autour d'eux ont quotidiennement et complètement négligé. C'est qui en ce moment s'occupe de la famille, de personnes malades de la famille? Est-ce que vous connaissez ce que vous avez dans les frigos ou c'est plutôt votre femme qui le sait? Donc cette charge un peu secrète est terrible. Veillez aussi au fait que oui, on est habitué au mansplaining, au fait que les hommes nous expliquent les choses, prennent la parole, et donc du coup quand on se trouve devant une femme compétente, est-ce qu'on arrive avoir la force pour s'arrêter et laisser parler? Est-ce qu'on a aussi la force de laisser le pouvoir?
puisque vous parlez de femmes compétentes, un nom que vous m'avez soufflé, Amanda Castillo, en septembre dernier, au micro de Florence Farion.
Pour les femmes, le sexisme et l'âgisme se cumulent. Mais effectivement, quand on est Michel Perrault, on transcende son âge parce qu'elle a une individualité tellement forte. On transcende ça. Dans mon livre, j'explique que la seule manière, en fait, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai trouvé une échappatoire, c'est d'être dans la création. Et pour moi, on devrait enrichir la médecine anti-âge d'un nouveau remède, c'est l'écriture. Enfin, toute activité qui permet de se penser comme un individu achevé, entier, est un remède anti-âge. Et c'est ce que fait Michel Perrault. C'est pour ça qu'elle transcende quelque part. On ne pense pas à elle en termes d'âge, on pense à elle en termes de ce qu'elle a fait, comment elle a contribué à la cause des femmes. C'est comme ça qu'on l'envisage. On n'est pas en train de la figer dans son âge.
Amanda Castillo, micro de Florence. Oui. Farion, une réaction comme ça à chaud en quelques secondes.
Elle a complètement raison. C'est-à-dire que vraiment la discrimination par rapport à l'âge et au vieillissement aussi esthétique est très très forte. Et c'est un poids majeur pour les femmes. Je pense déjà au tabou de, par exemple, de la ménopause, que je citais tout à l'heure, hein, comme ça, parce que c'est une chose qui fait partie de la vie. Et pourtant, on n'en parle pas, on ne peut pas se permettre. Et je réfléchissais aussi sur le poids de mots. Anti-âge, la crème anti-âge. Mais est-ce que vraiment on veut renoncer à une partie de la vie qui devient de plus en plus longue et intéressante? Parce que, aussi d'un point de vue physique, soulager de la charge, par exemple, du fait d'avoir ou pas avoir d'enfants, de les allaiter, de les porter, etc. Est-ce qu'on veut vraiment renoncer à tout ça? Est-ce que dans cet anti-âge, déjà, il n'y a pas un problème de définition? Il ne faudrait pas revendiquer tout ça?
Sylvia Jahn, on n'aura pas le temps d'en parler vraiment, on a 30 secondes pour en parler. Par rapport à vos préoccupations d'intégration multiculturelle, de féminisme, on peut être surpris de l'intérêt que vous portez à la mode. Qu'est-ce que c'est la mode pour vous en 20 secondes?
Alors je dirais une gourmandise prête à porter.
Il n'y a qu'à voir votre robe, cette robe avec plein de bouches dessus. Et les dessins qu'on trouve dans votre livre aussi, il y a quelques dessins, notamment le premier « Je te mange », qui est une femme... généreuse, qui englobe à l'intérieur d'elle une femme plus mince, en bleu.
Qui vient en quelque sorte d'un rêve aux yeux ouverts que j'ai fait pendant que je prenais une douche.
Votre livre Les Affamés, paru aux éditions Ovadia en 2023, était au centre de notre entretien dans Drôle d'époque. Merci Sylvia Jahn d'avoir été avec nous.
Il vero lusso è la povertà, mi dicevi l'altra sera a tavola. Il vero lusso è la povertà, perché il povero un sogno ce l'ha. Quante cose si dicono a tavola, che in pubblico non diresti mai. Soprattutto da quando la ghigliottina la lama affilata e lo sai. Che la donna adesso è più donna, non è più la donna di chi che sia. E anche dire che lei è la tua donna non va mica bene, mica è roba tua. Vedo un po' stanco, maschio etero bianco, tra ricatti morali, colpi ancestrali, monete di scambio. Tu vorresti tornare di nuovo ai bei tempi di mamma e papà, perché ti sembra normale che non sia normale la diversità. La droga, la moda, il calcio, la figa, mi piace scopare. Sempre d'amore si tratta, ma poi l'amore non c'è. Il vero lusso in questi tempi di guerra è avere una casetta con un pezzo di terra, un orto e una vigna di guarnaccino, due calci ad un pallone e un bicchiere di vino. Quante volte ho sentito parlare di campagna alla gente che vive in città e che loda la vita bucolica, però in campagna poi mica ci sta. È l'amore, l'amore, l'amore.
La guillotine à Bruno Rissas, un texte que, comme dirait Brassens, rigoureusement ma mère m'a interdit de nommer ici. Ce sera pour une autre fois. Pour l'heure, Drôle d'époque, c'est terminé.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Genève, un embouteillage est signalé entre l'aéroport et la douane de Bardonnay en direction de la France. Pour consulter l'inforoute en tout temps et en temps réel, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Bonjour Raphaël Wolf.
Bonjour Francesco.
Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu de Vertigo aujourd'hui ?
Catherine Fro pour son nouveau film Miséricorde, le nouveau film d'Alain Guiraudy.
Ah bah fantastique, on se réjouit, merci.
Mais de rien.
La première vous offre l'heure.
Il est 17h exactement et c'est l'heure du flash.